La bénédiction du Père, l'Esprit Saint, voici la seconde et dernière partie de l'enseignement du Père Yann Dominique de La Forest, un enseignement enregistré lors du Festival Marial de Notre-Dame du Lot en juillet 2022. La bénédiction du Père, l'Esprit Saint, voici la seconde et dernière partie donc de l'enseignement du Père Yann Dominique de La Forest.
J'ai commencé à vous montrer que pour pouvoir en fait, eh bien, recevoir l'Esprit Saint, il y a quand même, si je puis dire, des dispositions qui l'aident. L'Esprit Saint, bien entendu, il est peut-être venu vous visiter une fois dans votre vie, à un moment, comme moi. C'était pas vraiment prévu, je m'y attendais pas, j'allais simplement me confesser et boum, vraiment foudroyé par l'Esprit Saint. Donc il n'a pas besoin, évidemment, il n'a pas besoin de notre aide. C'est évident. Et quand on se convertit du jour au lendemain, c'est ce qui se passe. Il y a un passage de Dieu dans notre vie, hein, qui se fait de manière à la fois puissante, à la fois brutale, parce que ça change tout, évidemment, quand on rencontre Dieu. Quand on a vraiment fait une rencontre personnelle avec le Christ, ça change de tout au tout. Hein. Alors, je ne sais pas si vous l'avez ressenti de cette manière-là dans votre vie, mais généralement, votre système de pensée est complètement renouvelé, tous vos actes sont complètement renouvelés, il y a tout qui change, il y a tout qui change. Peut-être que vous avez eu de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus discrète, comme la brise légère de l'Esprit de Dieu qui vient vous visiter et qui petit à petit, en fait, vous sanctifie, vous transforme et vous lance dans le ministère. Mais généralement, si au fur et à mesure de ce parcours-là, il y a une ouverture de votre cœur qui a fait que petit à petit, eh bien, vous êtes rentré dans cette docilité du souffle de l'Esprit et vous avez cette conscience que l'Esprit Saint habite en vous. Si vous étiez vraiment dans le péché, vous avez peut-être connu une véritable effusion du Saint-Esprit, comme on dit, et qui est venu, vous êtes capable de en donner la date, le jour, l'heure, la minute. C'est tout à fait possible. Il y a un avant et un après. Et vous, ça a résonné, en fait, en vous, jusque dans votre chair, quoi. Vous voyez? Une effusion du Saint-Esprit. Pourtant, l'effusion du Saint-Esprit, c'est une effusion qui est évidemment d'ordre spirituel. Dieu est esprit. Donc, quand il vient nous visiter, c'est en esprit qu'il vient nous visiter. Donc, c'est pas une question de sensibilité avant tout. Alors, quelquefois, c'est tellement puissant que j'en ai le corps qui vibre. Vous voyez? Que vous avez, en fait, des émotions qui vous gagnent parce que vous êtes touché par cette présence, en fait, du Seigneur. Donc, ça vous rejoint jusque dans votre sensibilité, dans votre corps. Mais fondamentalement, c'est un mystère de foi. Avant toute chose, c'est une présence, en fait, qui vous est donnée et qui appelle votre foi. Comme quand vous êtes devant l'Eucharistie, hein. Devant l'Eucharistie, vous faites pas la différence entre une hostie consacrée et une hostie non consacrée. Hein? Ou bien alors, vous avez un don particulier, une grâce mystique particulière qui fait que vous êtes capable d'identifier, en fait, eh bien, qu'il y a une présence réelle. Bon, c'est tout à fait spécial, hein. Ça arrive, hein? Ça arrive. Mais voilà. En tout cas, vous voyez, il y a donc le Saint-Esprit, si vous voulez, vient nous visiter au-delà de notre disposition et en même temps, plus on se dispose, en fait, à le recevoir, plus il va venir rapidement, largement, et déployer, en fait, tous ses dons en nous, quoi. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on fait un travail, si vous voulez, de disposition comme cela, où on essaye de lever, en fait, quelques blocages, qui sont des blocages, en fait, que le Seigneur attend qu'on fasse sauter pour vraiment nous faire comprendre, mais en fait, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer dans le ministère, tu ne peux pas en fait être pleinement témoin si tu ne lâches pas ça. Si la grâce en fait qui vient du cœur du Père, comme le pardon, eh bien ne coule pas en toi. Si tu avances vers les autres avec toutes tes blessures, vous voyez, avec une véritable armure, tu ne peux pas être témoin du Christ. C'est pas possible. On ne peut pas témoigner du Christ si on est complètement blindé, quoi. Il faut rentrer dans la liberté des enfants de Dieu. Ça, c'est une grâce qu'il faut demander au Seigneur pleinement. hein, et qui vous permet, en fait, qui nous permet à chacun d'entre nous, si vous voulez, eh bien, d'être véritablement des témoins. Parce que on est appelé à être des témoins de quoi? De la résurrection. À la suite des apôtres, des témoins de la résurrection. C'est pour ça qu'hier j'ai insisté sur cette question de la résurrection, de savoir en fait, mais où est-ce que j'ai été visité et où est-ce que je peux en témoigner, vous voyez? Parce que regardez Jésus, comment est-ce que Jésus a été témoin de la résurrection? Qu'est-ce qu'il a fait? Le matin de la résurrection, il s'est présenté et il a ouvert ses mains. Il a dit « paix à vous ». Et les disciples l'ont identifié comment? Par ses plaies. Par ses plaies guéries. Par ses plaies guéries. S'il n'y avait pas eu les plaies. S'il n'y avait pas eu les plaies. Est-ce que vous auriez pu dire que Jésus était ressuscité? Non. C'est pas possible. Donc il a fallu qu'il montre ses plaies. Vous voyez? Qu'ils disent, et c'est comme ça que les apôtres, en fait, ont identifié que le Christ était ressuscité. Parce qu'ils ont vu ses plaies, quoi. Et même saint Thomas, il a voulu aller les toucher, quoi. Dire, mais en fait, mais est-ce que c'est vrai, ça? Vous voyez? Avec son réalisme, le sens du toucher, vous voyez, de saint Thomas. Et grâce à ça, eh bien, ils ont pu identifier que le Christ était vraiment ressuscité. Donc, on a besoin de faire cette expérience, en fait, du Christ qui nous visite et de savoir, mais là, Seigneur, tu es venu, en fait, jusque dans ma chair, tu es venu me visiter là, et je vois que tu m'as libéré. Oui. Et là, on peut devenir des témoins de l'Évangile. On peut devenir des témoins de l'Évangile en ayant, bien entendu, cette force en plus d'en haut qui nous libère de toute peur. De toute peur. Parce qu'on est tellement marqué par la peur. C'est impressionnant. La peur, elle nous vient, si vous voulez, de la faute originelle. Hein, de Satan qui s'est insinué dans notre relation avec Dieu. Et qui a mis le doute en nous au point qu'on se cache de Dieu. Et c'est le Seigneur qui vient nous chercher. C'est le Seigneur qui court après. Où es-tu? Où es-tu? J'ai eu peur et je me suis caché. J'ai eu peur et je me suis caché. Et depuis cette faute, la peur habite le cœur de tout homme. Je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas peur. Je n'en connais pas. La peur, fondamentalement, elle habite le cœur de tout homme parce qu'on est tous fracturés par le péché originel. Donc, on est habité par cette peur et on est complètement verrouillé, quoi. On est comme les apôtres, si vous voulez, qui sont sur le lieu où Jésus leur apparaît, là, complètement séquestrés par la peur des Juifs. Et qu'est-ce qui se passe quand ils vont recevoir cette force d'en haut? Mais vous avez vu ce que disent les apôtres, les actes des apôtres. C'est complètement dingue. C'est qu'ils sont passés, en fait, d'attitude d'hommes séquestrés, terrorisé par la peur, à un feu, mais un feu qui est allé jusqu'à leur faire trouver de la joie dans les persécutions, dans l'annonce du Christ. Oui, la transformation, la puissance en fait de cette force venue d'en haut, quoi. Oui. C'est quelque chose d'impressionnant, ça. Libéré de toute peur. Seigneur, libère-moi de toute peur. Et ça, en fait, c'est, je crois, l'une des premières renonciations que nous avons à faire. Hier, je vous ai parlé du pardon, du repentir. Et je vous ai parlé ensuite du pardon à donner. Et là, je voudrais vous parler de la renonciation. La renonciation, c'est quoi? C'est un positionnement que nous prenons pour Jésus-Christ. Un positionnement de fils de Dieu, de fille bien-aimée de Dieu. Intérieurement, je suis positionné dans cette identité-là, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu, et donc, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je demande cette grâce au Seigneur de ne plus avoir peur. Quelle que soit la peur du regard des autres, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être humilié. Essayez d'identifier votre peur. Vous voyez? Et Jésus nous l'a dit, il nous a dit, mais tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Homme de peu de foi, femme de peu de foi, n'aie pas peur. On vous dira, la peur fait partie de la foi. Quelquefois. Moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. La peur ne fait pas partie de la foi. La peur, elle fait partie, si vous voulez, on peut la regarder d'un point de vue philosophique, hein. Simplement, en tant que fuite par rapport à un mal possible. OK? Donc, c'est, Saint Thomas parle d'une passion, de ce côté-là. Hein. Mais, donc, d'un point de vue humain, c'est pas moral en tant que tel. OK? Mais là, au niveau biblique, si vous voulez, on est plus à regarder justement dans le rapport à la foi. Et il n'y a pas de peur dans la foi. La foi chasse la peur. La peur naît dans votre cœur parce que votre cœur est blessé, parce que nous sommes blessés. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais là, je dois avoir le réflexe de la foi. Regardez les martyrs. Les martyrs. Comment font-ils pour ne pas être terrorisés? Hein? Ils ont cette foi. Ils ont cette grâce, en fait, particulière, un don particulier dans un moment tout à fait spécial, évidemment, hein. Mais cette foi vient nous habiter et vient écarter de notre vie toute peur. Imaginez votre vie sans peur. Imaginez-la. Ce serait quelque chose, quand même, ça. Parce que, vous savez, quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez peur, le réflexe, c'est quoi? Ben, c'est forcément d'aller chercher une protection. Et donc, on va chercher une protection, on va chercher du réconfort, on va chercher à fuir cette peur d'une manière ou d'une autre. On va chercher un refuge. Ici, vous êtes au refuge des pêcheurs, vous êtes bien planqué. Ici, c'est un refuge magnifique. Hein. Donc, on cherche des refuges. Et on se réfugie où, généralement? Où est-ce qu'on va aller chasser notre peur? Ben, dans des compensations. On va dans des compensations. Et on se laisse prendre par ces compensations qui sont des moyens pour nous de chasser nos peurs, de les écarter de notre vie, de les oublier, de les fuir. Et on se retrouve, si vous voulez, eh bien, dans des refuges qui sont des faux refuges, qui sont des fausses consolations, qui sont des fausses protections. Oui. Ça peut être des compensations telles que des consommations de drogue, d'alcool, etc. Ça peut être la pornographie, ça peut être des personnes aussi, vous voyez. Ça peut être aussi des personnes à l'ombre duquel on se met en dépendance, vous voyez, comme des refuges. Mais je n'ai d'autre refuge que ton cœur, Seigneur Jésus. Je n'ai d'autre refuge que ton cœur. Et que le cœur de Marie, c'est là où je me cache. Et c'est là où nous sommes tous appelés à nous cacher. Donc, il y a en fait, vous voyez, quelque part, une renonciation qui va être un positionnement intérieur dans la foi où je vais renoncer donc, notamment à ces peurs. Mais je vais renoncer pas seulement à ces peurs-là. Je vais renoncer, en fait, à tout type, si vous voulez, tout réflexe que je peux avoir et qui me lie quelque part et qui entrave ma liberté d'enfant de Dieu pour le témoignage et pour la charité fraternelle, tout simplement. Hein? Et donc, la renonciation, ça va être quoi? Ça va être, donc, je vous dis, de me positionner intérieurement. Et quand je vais me positionner intérieurement, je vais proclamer ce renoncement. Parce que je suis fils de Dieu. Parce que je suis fille de Dieu. Donc, je vais proclamer ce renoncement. Et on le perd. Ça, c'est quelque chose qui était dans la tradition, vous voyez, notamment dans le sacrement de la confession. Dans le sacrement de la confession, une fois que vous vous êtes confessé, eh bien, généralement, on dit, dites votre acte de contrition. Et dans l'acte de contrition, alors aujourd'hui, il diffère énormément. Il y a beaucoup de liberté qui a été prise dans les actes de contrition. Et beaucoup de liberté qui a été prise dans les actes de contrition. Et en fait, dans la tradition d'Église, il y en avait un qu'on savait par cœur. Vous le connaissez, votre acte de contrition par cœur? Mon Dieu, mon Père, j'ai un très grand regret de... Parce que vous êtes... Bon. Ah. Ok. Vous avez entendu ce que vous avez dit? Je prends une ferme résolution. Eh ben, ça, je l'entends, moi, quasiment plus. J'entends, Seigneur, je te rends grâce, tatatata, merci pour ton amour, patati patata. Et en fait, là, cette ferme résolution, ça, c'est une prise de position. C'est une force. Quand vous proclamez cela, Dieu vous rejoint par sa grâce. Vous voyez? Il vous rejoint par sa grâce et il vous donne une force de lutter contre votre péché. Ah oui, mais c'est pas possible, c'est un désir. On exprime notre désir de sainteté, de ne plus t'offenser, Seigneur. Et donc, je prends position dans le quotidien de ma vie, vous voyez, avec un renoncement. Et je mobilise quelque part ma vitalité. Vous voyez, ça s'appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est au cœur du chrétien. Si vous n'avez jamais de combat spirituel, si vous n'êtes jamais taquiné par le mauvais, je peux vous dire qu'il y a un problème dans votre vie. Il y a un problème. Donc on s'affole pas quand il y a du combat spirituel, c'est plutôt bon signe. Ça signifie qu'il y a une visite de Dieu, qu'il y a une identité chrétienne à l'intérieur de vous qui dérange. Et donc il y a du combat, il y a de la tension. Et on avance, en fait, dans un combat spirituel, et le combat spirituel, il se termine dans la tombe. Dans la tombe. Alors, les différents types de combats évoluent selon, en fait, votre vie spirituelle et selon les permissions de Dieu, bien entendu. Mais le combat spirituel, ça fait vraiment partie de notre vie au quotidien, quoi. Oui. Donc, je reviens sur renoncement et je proclame ce renoncement à partir de tout ce qui peut, quelque part, si vous voulez, venir m'attacher, me lier. Parce que je peux avoir, du coup, des liens spirituels. Des liens spirituels, c'est quoi ? Un lien spirituel, une grande différence entre un lien spirituel et un péché. Parce que quand vous commettez un péché, votre volonté est engagée. Normalement, quand vous faites un péché, c'est pour ça qu'on va dans le sacrement, la volonté est engagée. Je pêche, je sais que je fais une bourde, un péché, je vais contre Dieu et donc j'ai besoin derrière d'aller me confesser, quoi. Ok. Donc un péché, la volonté est engagée. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave, en fait, même qu'un lien spirituel parfois. Parce qu'un lien spirituel, en fait, c'est quoi? C'est une attitude que vous allez avoir, un comportement, un acte que vous allez poser, contre lequel vous n'arrivez pas à lutter. Vous tombez toujours dans le même travers. Tout le temps dans le même travers. Oui. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a parfois ce qu'on appelle un lien spirituel avec un petit esprit qui se balade et qui vous attache, en fait, et qui, à force parfois d'avoir répété le péché, fait que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Vous péchez en buvant de l'alcool, une fois, deux fois, et puis c'est de plus en plus facile de consommer de l'alcool. Et vous finissez par être lié, en fait. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, si vous voulez, dans l'ordre de la grâce, quand vous posez un acte dans l'ordre de la vertu, eh bien, vous grandissez en bonté. Et c'est de plus en plus facile de poser un acte qui est bon. Le Seigneur vous accompagne. Vous voyez, de plus en plus, il vous donne sa grâce. Oh, dis donc! Alors, elle est généreuse. Hop, et puis il vous donne une capacité, en fait, dans le don, dans la charité fraternelle, de croissance, et vous grandissez comme ça en sainteté. Vous grandissez dans l'ordre de la grâce. Et ben analogiquement, dans l'ordre du péché, dans l'ordre du vice, eh bien il y a quelque chose du même ordre. Vous voyez, et vous pouvez tisser un lien comme cela, un lien spirituel avec un acte, et puis vous n'arrivez plus à vous sortir de cet acte-là. Et du coup, vous êtes dans cette tension intérieure, et puis vous vous démoralisez complètement, vous en désespérez même parfois. On peut même aller jusqu'à en désespérer. Et c'est le but du démon, de désespérer de la grâce, qu'on désespère de la grâce. Et donc quelquefois on a besoin d'une prière de coupure de lien. Et la prière de coupure de lien, eh bien c'est une prière que l'on fait comme cela, entre vous, vous voyez, et ce qui est objet de la nature de l'acte que vous posez. Si je prends l'alcool, je vais nommer ça, en fait, par un esprit d'alcool. Parce que il y a la fragilité psychique, vous voyez, et puis il y a toujours cette dimension spirituelle qui est liée. Il y a la nature et la grâce, la nature et le péché, quoi. Vous voyez? Et donc c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. C'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Il y a très souvent besoin de travailler un peu sur les deux tableaux, en guérison intérieure, en libération, et puis avec un psychologue, avec quelqu'un qui nous accompagne pour nous aider à mieux identifier en fait les raisons de et nous apporter la lumière sur ce qui se passe, quoi. Il y a un travail donc sur les deux tableaux. Donc on se positionne et on fait un renoncement, voire une prière de coupure de lien. Et ça, on le fait toujours au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça que Jésus nous a appris, quoi. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Et donc, je prie en disant, Seigneur Jésus, par ta grâce, eh bien, je renonce à, et puis je nomme, et je peux même, sur moi-même, prier en prenant autorité sur ma vie d'enfant de Dieu et en disant, Seigneur, par la grâce de mon baptême et de ma confirmation, eh bien, je coupe tout lien. Je brise tout lien entre moi et ce type d'attitude. Et là, vous êtes en train de vous positionner intérieurement. Vous êtes en train de dire, Seigneur, ça, le vieil homme, je n'en veux plus. Je veux l'homme nouveau. Et je suis en train de me positionner clairement dans ma vocation d'enfant de Dieu, de fils de Dieu et de fille de Dieu. Je me positionne intérieurement, je le proclame, j'avais pas peur de le proclamer, j'ai pas peur de le dire, hein. Je le dis et j'affirme par là, en fait, cette identité et je gagne en liberté. Et je suis en train de répondre à ce désir que disait Dieu le Père à Catherine de Sienne que vous avez entendu dans l'homélie ce matin. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Fais de la place. Parce qu'on est encombré par tout ça. Vous voyez, on est encombré et on peut prier même pour des émotions qui nous gagnent. Vous voyez, de cette manière-là, j'ai vu des libérations de personnes sur de la colère, vous voyez, sur de l'anxiété par une prière toute simple comme cela. Et là, l'Esprit Saint vient, on se fait capacité, il se fait torrent, si je puis dire. Et non seulement par grâce, il nous libère, mais en plus, il vient remplir, si je puis dire, l'espace vide, vous voyez, de notre cœur, quoi. Voilà. Oui. Donc, la renonciation, très important, la renonciation. Et donc, j'abandonne complètement à Dieu tous ces comportements qui sont indignes du Fils de Dieu que je suis, de la fille de Dieu que je suis. Je lâche cela au Seigneur, complètement. C'est terminé. C'est terminé. Et il faut être radical. Il faut être radical, hein, pour changer nos comportements, etc. Il y a pas de petit, il y a franchement pas de petit péché mignon, comme je disais hier. Vous voyez, hein, des tolérances que je m'accorde. Non, je tranche pour pouvoir être conduit dans ma vie par la charité du Christ, par en fait son Esprit Saint. Vous voyez. Alors. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux vraiment me remettre à Dieu complètement, en fait, dans l'abandon et apprendre, vous voyez, à partir de ces petits abandons, si je puis dire, qui sont en fait des grands abandons successifs que j'ai pu faire, j'abandonne mon péché à Dieu, hein, j'abandonne, en fait, ma rancœur, ma colère, etc., à travers le pardon que je donne à autrui, j'abandonne, en fait, tout comportement que je peux avoir par lequel, en fait, je suis lié complètement dans ma vie d'enfant de Dieu, hein. Je brise tout cela, voilà, et je demande au Seigneur, Seigneur, maintenant je te demande vraiment de prendre possession de moi. Il n'y a qu'une seule emprise dans notre vie qui doit avoir lieu, c'est l'emprise du Saint-Esprit. C'est l'emprise du Saint-Esprit, c'est la seule emprise qui, si je puis dire, en fait, nous fait grandir. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a aucune crainte à avoir à se livrer complètement à l'Esprit. Oui. Parce qu'il y en a qui ont des peurs de se livrer à l'Esprit en disant, mais attendez, c'est bien gentil de se livrer à l'Esprit, mais à l'Esprit Saint, mais quelque part, quelque part, je vais être aliéné. C'est une aliénation, d'une certaine manière. Oui. D'être lié à l'Esprit Saint, non? Eh ben non, ce n'est pas une aliénation. Les personnes qui sont aliénées, ce sont des personnes qui sont soumises à quelqu'un de plus petit qu'eux. Et il y a des gens qui sont aliénés comme ça, malheureusement. Mais quand vous êtes soumis à quelqu'un qui est plus grand que vous, et quelqu'un qui vous fait grandir, c'est plus une aliénation là, c'est le propre de l'éducation. Et c'est le Seigneur en fait qui nous fait grandir, c'est le Seigneur qui nous éduque dans notre vie d'enfant de Dieu. Vous voyez, c'est une grande différence ça, c'est une très très grande différence, hein, parce que le Seigneur, lui, il ne cesse de nous mettre dans un chemin de croissance et il unifie complètement nos personnes, hein, alors que le mauvais, lui, il nous divise intérieurement, il nous divise, vous voyez, il crée une tension à l'intérieur de notre cœur, complètement, il nous déchire en fait. Il nous fait faire ce qu'on ne veut pas. Oui. Et on est mal. Alors que, quand, par le souffle de l'Esprit Saint, si vous voulez, eh bien, notre personne, en fait, s'unifie. Ça ne fait pas nombre. Oui. C'est pour ça que la personne la plus proche de vous, en fait, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui est la personne la plus proche de vous. Et vous savez pourquoi? Si vous avez compris ce que je viens de dire. Pardon? Ah oui. Parce qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit, parce qu'elle est immaculée, en fait. Elle est sans péché. Oui. Le péché divise. Le péché divise. Oui. La grâce unifie. Et donc la Vierge Marie, parce qu'elle est immaculée, est la créature la plus proche de vous. Le Christ n'est pas une créature. C'est ça que je veux dire. En tant que... Bien sûr, je n'ai pas le Christ dans le même registre. Voilà. En tant que créature, la Vierge Marie est vraiment la créature la plus proche de vous, quoi. Et ça, on le mesure pas assez, vous voyez. Parce que c'est pour ça que quand Jean la reçoit en fait au pied de la croix, Dieu nous donne en fait celle qui est l'épouse du Saint-Esprit, la créature qui a été la plus docile au Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on a à se mettre en fait à son école. On a à se mettre à son école, vous voyez. Donc, se positionner comme ça et rentrer finalement dans cet abandon au Saint-Esprit. Alors, il y a une chose qui est extrêmement importante pour pouvoir, je dirais, pour encore une fois, faire un appel vis-à-vis de Dieu par rapport à l'action de l'Esprit-Saint en nous, c'est d'intégrer que le Saint-Esprit, il va vous pousser à faire des choses qui vous dépassent, qui fait que vous n'allez plus vous appuyer sur vous-même. Il va vous faire rentrer dans ce que j'ai dit hier, dans des actes audacieux. Oui. Vous allez être obligé de vous dépasser. Oui. Parce que c'est toujours facile quand on vous dit, ben voilà, vous pour un service d'église ou autre, je sais pas moi, vous chantez super bien. Ben, tu chantes super bien, tu vas te mettre au service de l'église et puis tu vas animer dans ta paroisse. Mais pas de problème, mon père, ça va, je sais faire. Ça va, je sais faire. Donc, je mets, en fait, donc dans l'obéissance, je mets mon talent au service de Dieu. On est d'accord? Bon, là-dessus, il n'y a pas franchement de crainte, il n'y a pas franchement de peur, il n'y a pas besoin, si vous voulez. Vous pouvez très bien vous appuyer sur votre compétence. Il n'y a aucun problème. Vous voyez? Mais quand vous n'êtes pas compétent, c'est là que ça devient intéressant. Oui. Parce que là, vous pouvez pas vous appuyer sur Dieu, quoi. Vous pouvez pas vous appuyer sur Dieu. Vous êtes obligé de vous appuyer uniquement sur l'obéissance et laisser Dieu dévoiler un talent caché, un charisme que vous avez et que on vous avait jamais révélé, etc. Et là, vous rentrez, en fait, dans le domaine du surnaturel, quoi. Complètement. Parce que vous êtes obligé de basculer dans la foi. Vous êtes obligé de basculer dans l'espérance. Je n'ai d'autre espérance que toi, Seigneur. Vous êtes obligé de basculer et d'avoir la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu comme moteur, là. Parce que ça, je ne fais pas, je ne suis pas compétent, je ne fais pas ça. Mais c'est justement là que le Seigneur t'attend. Parce qu'il va te dévoiler des merveilles que tu ne connais pas et qui sont dans ton cœur. Et ça, c'est puissant. C'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant. Et le Seigneur va vous pousse, se met à vous pousser à faire des choses en fait assez assez inattendues. Ça casse un peu les cadres parfois. Ouais. Ça casse un petit peu les cadres. Ça vous fait rentrer dans une liberté qui est la liberté de la charité. Ouais. De la charité. Voilà. Et le Seigneur il vous pousse derrière, il vous équipe et puis il vous fait des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, qui vous fait prendre un petit risque, qui fait brûler la peur du qu'en dira-t-on ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment est-ce qu'on va me regarder ? Etc. Et il va vous faire basculer vraiment, donc, dans ce registre-là, qui est le registre vraiment du surnaturel, quoi. Qui est le quotidien, en fait, du Seigneur. Dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Alors je dis pas que quand vous êtes compétent, vous ne pouvez pas être là-dedans, parce que justement, quand on est habité par le Saint-Esprit, eh bien, il devient principe de vie. Il devient le principe de votre vie. Quand je dis principe de vie, c'est-à-dire que c'est ce qui ordonne votre vie. Vous voyez ? Il ordonne votre vie et il en est le moteur. Donc ce n'est plus, donc en fait il y a une qualité divine dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis. Oui, je peux faire le ménage. Je voyais les religieuses qui étaient en train de faire le ménage dans le cœur tout à l'heure là. Voilà. Alors elles peuvent faire le ménage comme ça en pestant, en râlant. C'est la corvée, il y en a marre. Une telle est partie marcher jusqu'au col de l'ange. C'est à moi de la remplacer. Ta 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 ta. Elle peut faire ça complètement en râlant. On est d'accord. Eh bien, elle peut le faire dans le souffle du Saint-Esprit, dans la charité, et son acte, qui est exactement le même extérieurement, prend une qualité divine. Prend une qualité divine. Ça, c'est merveilleux, ça. Vous voyez? Et on peut, bien entendu, vivre, et on est appelé à vivre notre quotidien, comme la Vierge Marie, eh bien, avec cette qualité divine dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit. Et ça, c'est l'œuvre vraiment du Saint-Esprit, qui vient en nous, qui est à la racine, en fait, de nos intentions, de nos actes, et qui traverse, en fait, nos gestes, nos paroles, et qui les élève à un niveau divin, d'enfant de Dieu. Et c'est ça, en fait, le miracle. C'est que, en fait, à chaque fois, quand vous voyez, de toute façon, ce que le Seigneur a pu nous commander, eh ben, il nous commande des choses, il peut le faire, commandement de l'amour, vous voyez. Vous avez déjà, vu quelqu'un, est-ce que vous avez déjà essayé de commander à quelqu'un de vous aimer? Ça marche pas, hein. Ça ne marche pas. On peut pas forcer quelqu'un à aimer, c'est pas possible. Donc le commandement de l'amour, si vous voulez, c'est quoi? C'est un commandement qui est accompagné du moyen. Donc Dieu nous équipe, c'est pour ça qu'il appelle pas les gens compétents. Moi je peux vous dire que... connaissant le bonhomme, hein, eh ben, je suis pas compétent. Mais le Seigneur, et c'est ça qui est bien, il appelle pas les gens compétents, mais il rend compétents ceux qu'il appelle. Hein. Mais il rend compétents ceux qu'il appelle. Ça, c'est autre chose. Donc, il équipe. Et c'est pour ça que il faut pas attendre, vous voyez, notamment faire des tas de formations pour se lancer dans la mission, etc. Hein, il faut oser, il faut avoir cette audace simplement de se lancer. Et quand vous avez cette audace de se lancer, eh ben vous voyez des passages de Dieu. Et ce sont des petits dépassements, simplement des petits dépassements. Vous voyez, le dernier dépassement que j'ai fait. J'étais parti faire un footing, j'étais parti courir. Je reviens sur le parking et je vois une maman avec un landau. Et elle était avec son petit là, à genoux devant lui, en train de l'attacher. Et puis voilà que une pensée me traverse. donne-lui une médaille. Et cette pensée-là, si vous voulez, moi j'étais en tenue de sport, j'arrive à ma voiture, etc. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Pourquoi tu penses à ça ? De toute façon, t'as pas de médaille. Donc j'ouvre ma voiture, je prends mon habit, tout ça, et puis j'ai mon portefeuille dans ma poche, et puis pof, mon portefeuille tombe. Et là, je réalise que dans mon portefeuille, il y a une petite fermeture éclair avec la petite monnaie. Et dans cet endroit-là, j'ai une médaille de la Vierge Marie, parce que je suis religieux, donc mon argent ne m'appartient pas. Donc quand je suis tenté d'aller au McDonald's, eh ben, je regarde la médaille de la Vierge Marie et je vais pas au McDonald's. Et vœu de pauvreté. Je prends la médaille et je me dis, purée, mais j'ai une médaille. Je prends la médaille et puis j'arrive devant la maman. Alors, tout transpirant, hein, je dis, bonjour, madame. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis prêtre. Alors, elle me regarde. Bizarrement, évidemment, j'étais trempé de sueur, etc. Et je lui dis, tenez. J'ai une médaille pour vous de la Vierge Marie, de la rue du Bac. Et je lui donne cette médaille et elle la regarde et là je vois qu'elle change de couleur. Pas la médaille, hein, la dame. Elle change de couleur. Elle change de couleur, elle me regarde et elle a des larmes qui montent aux yeux. Et elle me dit, ah ben ça alors, hier, c'était son baptême, donc le baptême de son fils, petit Augustin, je m'en souviens très bien. C'était le baptême de mon fils et on n'avait pas de médaille de la Vierge. Et donc, je lui donne la médaille, voilà, et je suis reparti dans ma voiture avec la louange à tue-tête. Seigneur, t'es extraordinaire, Seigneur. Un passage de Dieu. Non. Mais c'est extraordinaire. Mais j'aurais jamais osé faire ça, moi, il y a quelque temps. Vous voyez? Il y a 10 ans, j'aurais jamais osé simplement faire ça, vous voyez? Me présenter comme ça devant une personne, puis obéir à une pensée comme ça qui me traverse. Vous voyez? Ben ça, c'est la présence du Seigneur. Et je vous le dis comme Saint Paul. Je vous le dis à chacun d'entre vous, vous l'avez, vous, la pensée du Christ. Vous l'avez, vous, la pensée du Christ. Parce que l'Esprit Saint demeure en vous. L'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, vous l'avez, la pensée du Christ. Vous êtes capable, en fait, de poser des choix qui sont les choix de Jésus, qui sont les choix de Marie. Vous êtes capable de ça. Et quand j'entends, on ne l'entend pas. Il faut s'interroger. Comment est-ce que je l'écoute? Parce que vous savez que Dieu n'est pas silence. Les silences de Dieu traverse nos vies. Mais Dieu est parole. Il n'est pas silence. Dieu est parole. Le Verbe s'est fait chair. La parole de Dieu s'est faite chair. Donc, je dois apprendre à écouter Dieu parce qu'il parle. Il parle par les événements. Il parle par ma pensée. Mais comme vous le dites, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça ne fait pas de nombre, on fait un avec Dieu. Donc, la distinction, si vous voulez, à moins d'avoir une pensée charismatique, une révélation charismatique, hein, là, je vous conseille d'aller lire notamment Sainte Thérèse d'Avila dans Le Château de l'âme, je crois que c'est à la 6e demeure, où elle donne des critères de discernement d'une parole révélée de Dieu qui nous traverse l'esprit. Donc allez voir ça, c'est très intéressant d'écouter les saints sur le discernement de la voix de Dieu. Donc Donc ça, il faut intégrer que Dieu est parole. Et qu'il ne cesse, en fait, de nous parler par les événements, par des pensées, qui sont des pensées, bien entendu, habitées par la charité. Ça, c'est un critère fondamental. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, dit saint Paul. Dieu nous conduit dans la charité. Il nous conduit toujours dans l'amour. Alors, quand tu as une pensée, comme le fait de téléphoner à ta sœur ou à ton frère, et que ça te traverse l'esprit, dis-toi bien que c'est sans doute le Seigneur qui, par charité, t'invite à passer cet appel. Parce que Dieu est un bon pédagogue. Donc, c'est vrai que il se répète. Il a tendance, le bon Dieu, vous voyez, quand on n'entend pas, tiens. Et quand c'est que, quand on l'entend, oui, mais ou quand on veut pas l'entendre, en ne posant pas, en fait, l'acte que, à laquelle on est invité de, qu'on est invité de poser, eh bien, il va recommencer, oui. On va entendre de plus en plus, de plus en plus. Oui, tout à fait. C'est Dieu a un mode comme cela pédagogique pour nous faire comprendre en fait qu'il est là. Il insiste parce que les voies de Dieu sont très déterminées. Vous voyez, ça fluctue pas quoi. C'est comme les désirs que l'on peut avoir. Un désir de Dieu, c'est un désir qui traverse les années généralement. Mais les désirs futiles qui passent comme ça, beaucoup plus difficile. De déterminer. Mais en tout cas, il faut apprendre à écouter son cœur, ça c'est certain, et à écouter son esprit dans la prière, et à laisser le Seigneur, en fait, eh bien, susciter les inspirations, parce que c'est d'abord par mode d'inspiration. Vous voyez? Et être habité. Et, oui, être habité par sa présence, bien entendu, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on va chercher on va gagner en docilité au fur et à mesure par la vie de prière, par le silence intérieur et en interrogeant Dieu. Et vivre dans l'Esprit Saint, ça passe par un quotidien, si vous voulez, où j'interroge le Seigneur en toute chose. En toute chose. C'est votre compagnon en toute chose. Vous interrogez l'Esprit Saint tout le temps. Saint Cyrin de Sarov, c'était tout son enseignement. Hein? L'acquisition du Saint-Esprit, c'est-à-dire interroger en toute chose le Saint-Esprit, toute chose. Que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans la vie conjugale, familiale, dans toutes nos relations, interroger dans les actes que l'on pose, c'est de vivre en fait dans l'Esprit, vivre dans l'Esprit Saint, c'est vraiment d'en faire pleinement en fait mon compagnon quoi. Oui, mon compagnon. Et donc, du coup, le Seigneur, derrière, eh bien, il va vous, à travers, comme je disais tout à l'heure, l'équipement qu'il vous donne, il va vous pousser à poser des actes qui vous dépassent. Et il va faire germer, en fait, les dons spirituels. Il va vous révéler des dons spirituels, en fait, que vous ne connaissez pas, que vous avez, et que vous n'avez pas conscience. Et petit à petit, eh bien, vous allez gagner en confiance parce que, justement, vous allez voir, en fait, l'œuvre du Seigneur à l'œuvre. Vous allez voir qu'il est avec vous. Et vous allez petit à petit mieux discerner et pouvoir en fait gagner en fait en audace. Mais et les dons spirituels, eh bien ça, c'est la grâce vraiment en fait de l'Esprit Saint, c'est la grâce de l'effusion généralement de l'Esprit Saint, hein, qui est le renouvellement en fait de la Pentecôte pour vous, renouvellement en fait du sacrement de la confirmation et qui est une grâce donc en vue d'eux, en vue des autres, en vue du corps qu'est l'Église, de l'édification de l'Église. Ça, ce sont tout ce qui touche, en fait, à ce qu'on appelle les dons spirituels, dit les charismes. Ce qu'on appelle les charismes. C'est en vue de l'édification de l'Église. C'est pour les autres. C'est pas pour nous. Vous voyez? Donc, vous avez, en fait, deux types de grâces dans votre vie. Vous avez la grâce sanctifiante. Et vous avez la grâce actuelle. La grâce sanctifiante, dit ce que ça veut dire. C'est la grâce qui coule dans les sacrements et qui a pour but de vous sanctifier. Les dons du Saint-Esprit qui vous sont donnés et qui viennent pour votre sanctification et qui font que, qui travaillent votre cœur dans le temps et qui finissent par vous faire porter, en fait, un fruit qui est le fruit de l'Esprit, quoi. Qui sont les fruits de l'Esprit. Okay? Grâce sanctifiante. La confirmation, elle vient confirmer votre baptême. Elle vous donne en plénitude, en fait, cette grâce qui vient œuvrer dans toutes vos facultés, principalement en fait dans la volonté et dans l'intelligence, hein, et qui vous fait devenir à la ressemblance de Dieu, qui dessine en vous cette image de Dieu, et qui fait que quand je vous vois, avant je pouvais dire que vous aviez les yeux de votre mère, et ben maintenant je peux dire que vous ressemblez à votre père. Il devrait y avoir une trace, vous voyez, votre père du ciel. Il devrait y avoir une trace. De même, analogiquement, qu'on vous dit que vous ressemblez à votre maman ou à votre papa, et ben quand je vous vois, si vous êtes fils de Dieu ou fille de Dieu, normalement, ça doit se voir. Ça doit se voir. Vous savez, avec comment elle s'appelle, Mère Teresa, il y a un journaliste qui a dit un jour, j'ai vu Dieu dans un homme. Après avoir rencontré Mère Teresa dans une créature, j'ai vu Dieu dans un homme. C'est-à-dire qu'il touchait la présence de Dieu, en fait, dans cette femme. Oui. Eh ben, c'est ça qui devrait, en fait, s'opérer. On devait dire, oh, mais tu ressembles à ton père. C'est qui ton père? C'est le père du ciel. Ton véritable père, là. Tu ressembles à ton père du ciel. Tu vois? Tu regardes. Ah oui. Tu regardes comme ton père du ciel. Tu regardes comme le Christ avec compassion. Il y a de la compassion en toi. Vous voyez? Où il y a de la lumière. Oui. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Oui. Eh ben ça c'est le signe de, évidemment, de l'Esprit Saint qui a fait de vous en fait son temple saint. Ouais. Et puis il y a les grâces actuelles. Les grâces actuelles, ce sont les grâces qui vous traversent. Et les grâces actuelles, si vous voulez, elles sont donc la plupart du temps pour l'édification de l'Église. Hein? Donc c'est un charisme, un don spirituel que vous avez par exemple, vous voyez, ou bien alors c'est un passage de Dieu. Vous sentez, vous touchez un passage de Dieu dans votre vie, quoi. Vous voyez? Pour autrui. Il y a quelqu'un qui parle, il sait pas que quand il parle, il est en train de toucher. Vous voyez? Tu as touché mon cœur. Mais vous avez des personnes que vous croisez, en fait, vous entendez Dieu derrière elles pour vous. Ben, en fait, là, quelque part, il y a une grâce actuelle qui est en train d'être donnée, quoi. Vous voyez? Voilà. Et la Pentecôte, elle est là pour ça, parce que c'est vraiment l'édification de l'Église. Cette force que l'on reçoit d'en haut et qui fait que vous pouvez aller vers les autres pour les édifier, pour les consoler, pour les exhorter. Oui. Et là se déploie, en fait, eh bien, cette grâce particulière, qui est cette grâce, en fait, de la confirmation et l'effusion du Saint-Esprit. Elle est là, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu pour réveiller ça. Parce que je sais pas comment est-ce que vous avez été préparé à la confirmation. Mais pour ma part, qu'est-ce qu'on a développé? Moi, j'ai jamais entendu parler des dons spirituels, des charismes au moment de la confirmation. J'ai entendu parler des 7 voiles de mon bateau. 7 voiles de mon bateau, les 7 dons du Saint-Esprit. Voilà. Alors, comme je suis du bord de mer, ça me parlait bien. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais c'était tout, quoi. Vous voyez? C'était tout. Alors, la grâce du sacrement de la confirmation, le catéchisme de l'Église catholique nous le redit, j'ai la référence là-dedans, je peux vous la donner, hein, c'est le renouvellement, c'est le souffle de la Pentecôte. Le souffle de la Pentecôte. Normalement, quand vous recevez le sacrement de confirmation, derrière, fouf! Mais vous êtes en feu, quoi. Vous êtes en feu, et vous allez proclamer le nom de Jésus partout. C'est pas trop ça. On ne voit pas trop ça. Oui. Et c'est pour ça que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a des blocages qui empêchent la grâce du sacrement de la confirmation, si vous voulez, d'être déverrouillée, d'être libérée. Et l'effusion du Saint-Esprit, elle est là pour ça. On fait un chemin comme cela pour lever ces blocages-là. Si je puis dire, je vais prendre l'image d'un chocolat au lait, vous voyez, la grâce, c'est le chocolat qui est au fond du verre, vous voyez. Il est au fond du verre. Et puis au-dessus, donc, il y a le lait. Et vous, en fait, il est pas au chocolat, votre lait. Vous avez besoin de mettre une cuillère dedans et vous touillez. Alors après, vous avez des effusions, comme je vous le dis, une effusion du Saint-Esprit, c'est une grâce de l'Esprit Saint qui est donnée pour généralement une mission particulière. Donc la Pentecôte, c'est pour l'édification de l'Église, la naissance de l'Église, etc. C'est pour le témoignage. Okay. Mais si vous êtes marié, vous avez reçu une effusion du Saint-Esprit. Peut-être qu'on vous l'a jamais dit. Ben, le jour où vous vous êtes marié, vous avez reçu une effusion du Saint-Esprit, un don spécial de l'Esprit-Saint pour votre relation conjugale avec votre époux, avec votre épouse, et pour les liens que vous avez avec vos enfants. Pour que ces liens se construisent et se tissent à la fois dans la sainteté, et pour que vous puissiez avoir notamment une intelligence d'amour pour l'autre, comme vous, comme personne n'en a. Parce que vous vous liez à cette personne-là dans le sacrement. Donc, vous vous retrouvez, si vous voulez, à avoir une grâce pour avoir une intelligence de l'autre, comme personne n'a. Donc, quand on vit le sacrement du mariage, eh bien, il y a une perspicacité en vue de l'amour conjugal qui est toute nouvelle, qui est toute donnée. Et il faut apprendre à passer par ça. Il faut apprendre à demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'intelligence de mon mari, de ma femme. Parce que là, ça va pas. Il n'y a plus de dialogue entre nous. Vous voyez? Il n'y a plus de don entre nous, mutuels. Alors viens, donne-moi davantage, fais-moi comprendre son cœur, fais-moi comprendre ses blessures, viens m'éclairer, etc. Et là, vous avez en fait, vous voyez, eh bien, une grâce propre, justement, pour cette situation. Pour les enfants, c'est pareil. Et c'est ça qui est très très beau. Et vous recevez différentes effusions quelquefois pour une mission particulière. Quand vous avez un appel, bah, moi, par exemple, pour ma vie religieuse, une effusion du Saint-Esprit particulière. Vous voyez? Parce que, paf! Une détermination toute nouvelle dans votre vie. Ou bien alors, il y a, paf! Vous recevez une grâce, ça s'appelle une effusion du Saint-Esprit, où tu quittes ton boulot, tu changes complètement ton boulot, tu changes de région, tu pars ailleurs, etc. et tu prends une autre orientation dans ta vie. Ouais. Une effusion du Saint-Esprit, elle vous donne une direction, elle vous donne un cap. Oui, elle vous détermine pour. Oui. Voilà. Et donc, c'est cela qu'on va demander. On va demander au Seigneur de vous apporter cela, et puis surtout, bien entendu, hein, de vous enraciner. Parce que c'est ça aussi, c'est que l'effusion, si vous voulez, elle vous donne, elle vient nourrir votre conscience de cet amour que Dieu a pour vous. Cet amour ineffable que Dieu a pour vous et qui vous pousse, en fait, à le dire. Qui vous pousse à le dire. Quand on est jeune fiancé, on peut pas s'empêcher, en fait, de montrer sa conquête, son conjoint. Les jeunes fiancés, ils sont trop fiers, quoi. C'est normal. C'est tout à fait normal. Quand vous êtes amoureux, ben vous avez envie de montrer cet amour que vous portez à l'intérieur de vous. Vous avez envie de le dévoiler, vous avez envie qu'on le sache. Mais regardez comme il est beau, mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Eh ben les chrétiens, ça devrait être comme ça avec le Christ. On devrait ne pas pouvoir se retenir d'annoncer Jésus. Si on l'aime vraiment dans notre cœur, on doit avoir ce désir-là de l'annoncer au monde. Vous voyez? Parce que on a celui qui est le salut du monde dans notre vie, quoi. Vous savez, la plus grande pauvreté, hein, qui existe, hein, dans un cœur humain, la plus grande pauvreté, c'est quoi? C'est de ne pas avoir la foi. La plus grande richesse qui existe dans le cœur de l'homme, c'est d'avoir reçu la foi. Nous avons la foi, c'est quelque chose d'énorme, quoi. C'est complètement fou. C'est dingue de se dire, waouh, Seigneur, je suis le plus riche des hommes. Le Christ est notre richesse. Le Christ est notre richesse. Et donc, dans la foi, eh bien, nous accueillons cette présence, voilà. Et donc, on demande au Seigneur de nous donner, en fait, cette force d'ouverture de cœur pour pouvoir ensuite l'annoncer. Amen.
La bénédiction du Père à l'Esprit Saint Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'enseignement du Père Yann-Dominique de La Forest, un enseignement enregistré lors du Festival Marial de Notre-Dame du Lot en juillet 2022.